Je vais vous dire un truc. Vendredi soir, je me suis posé, j'ai regardé ce que j'avais écrit, ce que j'avais dit et ce que j'avais exprimé à propos des marchés durant quasiment toute la semaine. Et puis, je me suis refait mes vidéos de quand Trump était président pour la première fois. La fois où il avait dit qu'il fallait s'injecter de la Javel pour vaincre le Covid et à la fois où il est devenu meilleur pote avec Kim Jong Un, deux, tres. Et je me suis rendu compte qu'il nous faisait revivre plus ou moins la même chose, mais avec des sujets différents. Mais je me suis aussi rendu compte que les marchés étaient toujours aussi réceptifs à ses tweets et à ses changements de direction, sauf que cette fois, il a plus de pouvoir et il a l'air encore plus excité qu'avant, avec un ego encore plus surdimensionné qu'avant, et que ça va durer encore 3 ans. En attendant, la seule chose que nous, on doit apprendre, c'est acheter sur faiblesse. Alors certainement qu'un jour, ça risque de lâcher pour de vrai et qu'on va mettre plus de 3 minutes pour s'en remettre. Mais en attendant, on a l'impression que même si Trump peut donner l'impression d'être complètement cinglé, par moment, il a besoin de la validation des marchés et il fera tout ce qu'il faut pour que ça remonte. L'autre jour à Davos, il a dit que le Dow Jones allait doubler très rapidement. Et visiblement, selon lui, ça veut dire avant la fin de son mandat. En gros, il va falloir s'adapter parce que après la semaine qu'on vient de vivre, il semble très clair que la géopolitique est devenue clairement le maître du jeu. La macro est au second plan et la micro, on n'en parle même pas, ou alors c'est très individuel. On dit que le marché est équilibré quand ces trois piliers sont considérés comme tels. Pour l'instant, le pilier de la géopolitique prend le dessus sur absolument tout et ça va durer encore un sacré moment. Un moment comme 3 ans à peu près. Entre deux, la Fed peut apprendre à faire des claquettes, le Japon peut s'endetter de 50% de plus, la dette US peut monter à 45 000 milliards et l'or à 10 000. Le truc qu'il va falloir dompter ces 3 prochaines années, c'est Trump et puis c'est tout. Bienvenue dans ce Swiss Bleach, je suis Thomas Veillat et nous sommes le dimanche 25 janvier 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc bienvenue dans le Trump Market. Bon, on va commencer assez simplement. Cette semaine, la bourse n'a pas réagi à des chiffres, elle a réagi à l'humeur d'un type, et ce type, c'est Donald Trump. Aujourd'hui, Trump, c'est plus un président, c'est un indicateur économique. Avant, on regardait l'inflation, la croissance, les taux, les minutes de la Fed, le CPI, les chiffres de l'emploi. Maintenant, on regarde plus qu'une seule chose, c'est Truth Social, l'humeur de Donald Trump, savoir si Donald Trump a bien dormi, savoir si Donald Trump est en forme aujourd'hui. Bienvenue dans le Trump Market. Alors cette semaine, Trump s'est levé un matin et puis il s'est dit « Tiens, si je récupérais le Groenland ?» Normal, c'est assez classique. Comme quand vous, vous hésitez entre un expresso et un croissant le matin, lui, il prend la map monde et il cherche ce qu'il va récupérer aujourd'hui. Sauf que quand lui, on lui dit non, eh ben, il colle des droits de douane et c'est comme ça qu'il s'énerve. C'est du chantage de haut niveau, hein. Si tu me donnes pas ton goûter, je te brûle ta maison. C'est limite du racket de cours d'école. Et les marchés, bah donc ils ont fait « Oh my God !» et ils se sont mis en PLS au début de la semaine. La tech qui se faisait démonter, l'obligataire qui paniquait, alors qu'il continuait d'être une valeur, un refuge encore, encore et encore. Le Bitcoin qui dit « Attendez, j'étais pas censé être l'or numérique, moi ?» Bah non, bah, le Bitcoin et l'or numérique, bah c'est pas pour cette fois. Et puis ensuite, Trump est arrivé à Davos. Là, il a parlé, il a menacé, il a promis, il a raconté tout et n'importe quoi. Et surtout, il a reculé, il a fait du rétro-pédalage. Et là, les marchés, ils ont dit « Oh, buy the dip !» C'est devenu clairement un réflexe pavlovien. Trump menace, on vend, Trump rétro-pédale et tourne la veste, on achète. Ça a même un nom à Wall Street, vous le savez maintenant, c'est le taco trade. Trump always chicken out. C'est donc officiel, la lâcheté est devenue un signal d'achat. On vit dans un monde où un tweet peut faire moins 2%, un silence peut faire plus 1%, un accord flou peut déclencher une euphorie mondiale totale. Aujourd'hui, c'est plus un marché financier, c'est une série Netflix mal écrite. Avant, on analysait les fondamentaux, aujourd'hui, on analyse la psychologie d'un mec qui est quasiment borderline. Les marchés sont devenus Trump dépendants, nerveux d'attendre de voir ce que Trump va dire, Trump toxico, et ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent être rassurés. Ce qui arrive plus ou moins un jour sur deux sous Trump premier. Et pendant que Trump joue à risque grandeur nature avec sa carte du monde, eh bien, les semi-conducteurs, eux, ils ont continué de cartonner. Parce que l'IA, est-ce là ceux qui sont fous de Trump pour l'instant? Les puces ne votent pas, les robots ne tweetent pas, enfin, pas encore. Samsung, Micron, Hynix, le SOC, tout le secteur bat des records. Les deux mondes coexistent pour l'instant, le monde politique qui est littéralement hystérique et le monde technologique qui est froid, rationnel et futuriste. En tous les cas, depuis quelques jours, la plupart des boîtes de semi-conducteurs cartonnent. Je dis la plupart parce que Intel a complètement foiré son trimestre, mais le reste, ça va bien. Ça va même très très bien, surtout dans tout ce qui est mémoire. Et puis alors, il y a l'économie. C'est vrai, l'économie, ces temps, on la regarde moins parce que Trump monopolise les médias. Mais souvenons-nous quand même que le bull market de ces bientôt trois dernières années est passablement dû à la baisse des taux, ou en tout cas aux espoirs de baisse des taux. Sauf que là, quand on voit les chiffres économiques qu'on nous sort régulièrement, ça va un petit peu trop bien dans l'économie quand même. En tout cas, l'économie US, hein. La croissance est plus forte que prévu, ça licencie moins, en tout cas il paraît, et Scott Bessent pense encore que la croissance va exploser encore plus cette année. Goldman parie sur 2,5% de croissance aux États-Unis en 2026, Bessent lui sur 5%. Au minimum. Donc l'économie américaine va trop bien. La croissance est forte, les gens consomment, l'emploi résiste, l'inflation refuse de mourir. On l'a encore vu avec les chiffres du PCE cette semaine qui ne baissent pas, au contraire qui repartent légèrement à la hausse. Donc non, non, les taux ne vont pas baisser tout de suite, en tout cas pas la semaine prochaine. Et pourtant, les marchés s'en foutent, les marchés montent quand même. Pourquoi ? Eh ben parce qu'ils préfèrent une économie solide avec des taux un petit peu trop élevés plutôt qu'une économie morte avec des taux à zéro. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Alors la grande question à laquelle il faudra répondre ces prochains temps, c'est comment est-ce qu'on va faire pour finalement avoir les prochaines baisses de taux ? Parce que n'oublions pas que Trump et consorts, ils veulent encore et encore des baisses de taux. C'est son objectif premier. Mais aujourd'hui, quand on voit la force de l'économie, si vous mettez une baisse de taux massive là-dedans, on va avoir un sacré problème d'inflation à un certain moment. Ça paraît juste mathématique. Et pendant que tout le monde regarde Trump, eh bien le Japon est en train de foutre le feu à l'obligataire mondial. Les taux japonais montent, la dette est monstrueuse, le carry trade tremble, et si le Japon commence à rapatrier son argent, les taux US pourraient exploser. D'ailleurs, il y a la Fed de New York qui pense déjà intervenir sur le yen, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Mais bon, en attendant, les marchés vont bien. Peut-être qu'un jour, ils se rappelleront à cause de l'obligataire, qu'ils ne sont pas immortels. Mais bon, c'est moins sexy que Trump, bien sûr, donc personne n'en parle pour l'instant. En conclusion, aujourd'hui, le marché n'achète plus les bénéfices, n'achète plus la croissance, n'achète plus de macro, il achète le rétro-pédalage. Et ça marche. Ça marche plutôt bien, parce que c'est ce qui nous a fait pousser le marché sur les trois derniers jours de la semaine. Jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Parce que le jour où Trump ne reculera pas, peut-être que le marché va se rappeler ce que c'est un vrai sell-off. Mais en attendant, le principe de base, c'est panique, on vend, dégonflage ou rétro-pédalage, on rachète tout. On est en mode bull market par défaut parce que plus personne ne vend, on attend juste l'occasion d'acheter. C'est épuisant, c'est absurde, mais c'est le jeu. Bienvenue en 2026, bienvenue dans le Trump market. Nous sommes donc dans un marché qui aujourd'hui intéresse de moins en moins les investisseurs qui passent trop de temps à essayer de comprendre ce que Trump veut et ce que Trump dit. On commence tout de suite avec les performances de la semaine. Alors comme vous le voyez, la vedette incontestée de la semaine, c'est clairement l'argent, puisqu'elle a pris, l'argent a pris 15% sur la semaine. L'or suit de près et continue de bien se comporter, bien évidemment. Et puis après, autrement, on a le pétrole qui rebondit à cause des tensions politiques, évidemment. La Chine qui s'en sort pas trop mal, et le SOX qui est donc en hausse sur la semaine, hein, il prend 0,38%, et il est au plus haut de tous les temps, ou presque. Le Nasdaq a donc perdu 0,06%, le Nikkei est quasiment à l'équilibre et le S&P 500 perd 0,35% sur la semaine, mais vous voyez que le plus dur c'était évidemment en Europe, le CAC a quand même perdu 1,4%, le DAX 1,57% et notre bon vieux SMI perd 2%. Allez comprendre quand c'est censé être un marché qui est un peu plus un marché de refuge. Mais même si Trump a fait son show depuis Davos, eh bien le SMI a vécu une très mauvaise semaine, tout comme le Bitcoin qui finit quand même en baisse de 5,45%, alors que effectivement on espérait qu'un jour ce soit la valeur refuge par excellence, la valeur refuge digitale, mais visiblement, comme je le disais avant, c'est pas pour cette fois. Dans les membres du SMI, alors vous voyez là aussi, bah évidemment, avec un indice qui perd 2%, difficile de trouver des winners. On a donc Swisscom qui gagne 2,27% et Novartis qui est légèrement en hausse sur la semaine, mais tout le reste, c'est du rouge, du rouge, du rouge et du rouge, alors certains plus que d'autres. Mais on a vu typiquement alors Logitech qui publiera ses résultats d'ailleurs mardi, ce Ferrer, et Logitech perd 6% sur la semaine. Alors la raison principale, c'est un downgrade massif de Morgan Stanley, sauf que ce Ferrer qui a mis la grosse pression sur Logitech. Il y a eu d'autres banques qui ont fait des commentaires positifs et qui se montraient optimistes sur les résultats.
affaire à suivre, on en saura un peu plus en début de semaine. Et puis Nestlé, on va en reparler, qui sont toujours noyés dans leur problématique de lait infantile pour l'instant. Du point de vue technique, vous le voyez, donc le SMI s'est bien replié depuis la semaine dernière où on avait été faire des plus hauts historiques. Donc on en revient à 13147 en clôture vendredi soir. On a la moyenne mobile des 50 jours qui passe par les 13 000. Donc autant vous dire que c'est le point d'inflexion hyper important pour le SMI. Et vous voyez que si on prolonge cette tendance de fond qu'on a, cette résistance qu'on a cassée il y a quelques temps, eh bien on arrive sur une zone où ça peut faire point de support. Donc zone de support ici sur le SMI autour des 13 000 points qui pourrait nous permettre d'envisager quelque chose de plus optimiste pour l'indice helvétique. Le S&P 500, alors lui, pour l'instant, il bouchonne, hein, ça bouchonne à l'entrée des 7000, on n'arrive pas à y aller, on a frisé le code l'autre jour, on n'arrive pas à aller faire payer ces 7000, donc ça hésite toujours, on a une résistance, donc qui, quelque part, qui passe par cette zone, hein, on va dire comme ça, donc voilà, c'est simplement la zone psychologique des 7000, en attendant, on a le support qui fonctionne toujours hyper bien, c'est cette moyenne mobile des 50 jours, alors il y a peut-être des exagérations, mais vous voyez que dès qu'on franchit, le lendemain, boum, on rachète derrière. Ça a plutôt pas mal marché les deux dernières fois. Donc prochaine invective de Trump, eh bien je pense qu'il faudra se repositionner dans un premier temps légèrement en dessous de la moyenne mobile des 50 jours pour venir racheter le marché si cela devait se produire encore une fois. Le Nasdaq, eh bien, lui, il est sur sa tendance haussière, toujours, hein, ben, pareil, même comportement, on n'arrive pas à casser pour aller rechercher les plus hauts historiques, et la moyenne mobile des 50 jours fait office de support. Alors, attention quand même, parce qu'on voit qu'elle est en train gentiment de prendre une direction un peu plus, on va dire, dans cette tendance-là, alors qu'avant, elle était plutôt dans une tendance haussière, donc ça veut quand même dire que pour l'instant, c'est plus difficile. Mais voilà, là aussi, on a un support qui passe plus loin dans cette zone-là. Vous voyez, faut se baser un peu là-dessus. On a quand même un truc assez intéressant. Donc, au-dessus des 25 300, au niveau des 25 300, on est sur des bons niveaux d'achat sur le Nasdaq pour l'instant. Mais attention, il y aura beaucoup de chiffres qui vont tomber dans le domaine de la tech ces prochains jours. Et donc, il pourrait y avoir un petit peu de volatilité. On passe au SOX. Alors, l'indice des semi-conducteurs. Donc là, ça se passe de commentaires. On a pas mal de titres du secteur qu'on cartonnait la semaine dernière et ces derniers temps. Donc forcément, ça continue. On a fait quand même un plus haut historique durant la semaine sur le semi-conducteur index. Si ça devait se replier un petit peu, bah, le support est autour des 7600 pour revenir sur l'indice. Mais en tout cas, ça va bien. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, eh bien ça va bien. Beaucoup mieux que d'autres secteurs en ce moment sur les semi-conducteurs parce que eux ils ont leur propre vie et ne se prennent pas trop la tête avec les histoires de Donald Trump. Le CAC 40, lui, il a tenu les 8000, c'est la bonne nouvelle de la semaine, mais ouais, voilà, on a beaucoup souffert de ce qui s'est passé en début de semaine avec ces histoires de Groenland, hein, donc on voit que on s'en sort pas trop mal, on a réussi à tenir les 8000 et puis en fin de semaine, on finissait même au-dessus de cette moyenne mobile des 50 jours qui est plutôt positif pour l'instant. Cette semaine, je vous l'ai pas encore dit, mais il y aura les chiffres de LVMH qui seront publiés, donc ça sera évidemment très important pour la suite pour le CAC 40. Le DAX, lui aussi, il est revenu en dessous de cette tendance haussière. Donc là, on a aussi un support au niveau de la moyenne mobile des 50 jours, pardon, au niveau des 24 180 à peu près. Le DAX a un petit peu souffert en milieu de semaine, comme pour le reste de l'Europe. Mais on a aussi noté que, comme finalement, il n'y a pas de guerre à envisager du côté du Groenland, eh bien, les secteurs de l'armement ont pesé aussi un petit peu sur le DAX durant la semaine. Parce que finalement, on va vendre moins d'armes, semble-t-il, parce qu'il n'y aura pas de guerre au Groenland. Mais qu'on se rassure, hein, visiblement, Trump est en train de faire son show en Iran. Donc, c'est pas exclu qu'il se passe encore des choses là-bas, en Iran. Et puisqu'on parle de l'Iran, eh ben, le pétrole va dans tous les sens. Hein, vous voyez qu'un jour en haut, un jour en bas, mais globalement assez solide, parce que là, on a de nouveau des craintes au niveau d'un pays concerné par le pétrole. Donc, forcément, il y a un petit peu de tension sur les prix du baril, qui pour l'instant traite autour des 61 $. Et puis l'or qui frise les 5000, donc ça continue de monter, hein, rien à dire, c'est plus un graphique, hein, c'est un ascenseur vertical pour l'instant, donc ça monte, on ne sait pas à quel moment ça va arrêter de monter, mais pour l'instant, il n'y a plus de faiblesse au niveau de l'or, on a besoin de valeur refuge, et tout le monde ne jure que par le métal jaune et le métal gris, bien sûr, qui est à 103 $ et des poussières aujourd'hui, donc là aussi, c'est quasiment vertical, quand on se souvient qu'au mois d'avril l'année dernière, on était à peine à 28 $, C'est incroyable ce que nous fait l'argent en ce moment. Ça parle de short squeeze dans tous les coins et ça n'arrête plus de monter non plus, bien évidemment. Contrairement au Bitcoin qui, lui, n'arrive plus en avant et qui est sur les plus bas de sa tendance semi-tendance haussière, on va dire que là, on est dans une forme de tendance haussière, on passe par les 87 000, et pour l'instant, eh bien, c'est difficile de repartir sur le Bitcoin. Il n'y a pas vraiment un gros intérêt. Si c'est un symbole de l'appétit au risque des marchés, eh bien, tout est dit avec ce graphique aujourd'hui au niveau du Bitcoin. Novartis vient de franchir une étape décisive dans son pipeline immunologique. La FDA vient d'accorder la désignation de thérapie innovante au ianalumab pour le traitement d'un syndrome de Sjögren. Les points clés à retenir, c'est que cette désignation accélère drastiquement le processus de développement et de revue classique. L'objectif est clair, c'est une mise de marché sur le marché cette année pour le monde entier dès début 2026. Ce produit, le ianalumab, est en passe de devenir la première thérapie ciblée pour cette maladie auto-immune systémique, la deuxième plus fréquente en rhumatologie, qui ne dispose actuellement d'aucune option thérapeutique efficace. Donc je vous passe le détail sur les données cliniques, parce que si je vous dis que tout est basé sur de solides essais de phase 3 par le truc Neptunus 1 et 2, et que le médicament qui est un anticorps monoclonal agit sur l'élimination des cellules B et le blocage de leur activation via le récepteur BAFFR, je pense que ça vous ferait une belle jambe. Mais on va dire que ça marche bien. En répondant donc à un besoin médical significatif et non couvert, Novartis consolide ses positions en immunologie, un segment à forte marge et à barrière à l'entrée très élevée. En gros, la combinaison d'une désignation fast-track obtenue précédemment et de ce nouveau statut innovant place Novartis dans une position de précurseur sur un marché qui est quasiment vierge. C'est donc un moteur de croissance organique très robuste pour le segment biopharma du groupe Helvetic, si tout se passe bien. Alors cette belle annonce n'a pas fait grand-chose sur le titre, mais ça reste quand même un des seuls titres qui est en hausse cette semaine. Donc vous voyez, on a cassé notre résistance depuis un moment, et on s'établit gentiment, largement au-dessus des 100 francs. Prochain objectif, c'est de retourner au plus haut de tous les temps, avec un gros support sur la zone des 112 francs sur Novartis. Zurich a fait parler d'eux, ils ont tenté de racheter l'assureur britannique Beazley, mais ça ne se passe pas comme prévu, puisque le conseil d'administration de l'assureur spécialisé Beazley a rejeté à l'unanimité l'offre relevée du géant suisse. La raison, comme d'habitude, c'est basé sur le « greed is good » et le principe que quand on se fait racheter, c'est jamais assez cher. Pourtant, le titre traitait à 800 pence depuis un moment et le prix offert par la Zurich est nettement en-dessus des plus hauts historiques. Mais le conseil pense que c'est pas assez cher. Il fait donc monter la mayonnaise. L'offre actuelle, c'est Zurich qui proposait 1280 pence par action en cash, ce qui valorisait plus ou moins Beazley à 10,4 milliards de dollars, soit une prime de 56% par rapport au prix de base. Beazley a révélé avoir déjà refusé une approche de Zurich à 1315 en juin. Donc du coup, là, proposer 1280 pence aujourd'hui, c'est un peu perçu comme une insulte à la valorisation actuelle, malgré la prime offerte. La direction estime que le prix sous-évalue significativement ses perspectives de long terme, notamment son leadership sur le segment très rentable de la cybersecurity et des marchés de niche, l'aérospatial, les bijoux et les événements. Zurich est en manque de croissance sur les segments de spécialité et Beazley est donc la cible idéale. Le fait que Zurich revienne à la charge avec une offre inférieure à celle de juin montre une tentative de profiter d'un momentum de marché, mais Beazley a les reins assez solides pour exiger un ticket d'entrée plus ou moins autour des 1400 pence. La spéculation reste donc entière. Si Zurich ne remonte pas son prix, il pourrait y avoir un chevalier blanc qui pourrait entrer dans la danse. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que Zurich était en baisse en début de semaine quand ils ont fait l'offre. Parce que tu comprends, sortir du cash, ça fait pas plaisir. Et Zurich était aussi en baisse en fin de semaine parce que tu comprends, c'est un bon deal et ils vont devoir passer à la caisse pour mettre la main dessus. Voilà, vous voyez que Zurich s'est fait démonter donc ces derniers jours et revient au plus bas des plus bas des plus bas. Donc, au niveau des 543 francs suisses. Clairement, pour moi, c'est un niveau d'achat à ce niveau-là. Donc, franchement, en dehors de l'opérationnel de la boîte, franchement, quand vous voyez ce que ça touche comme dividende à ce niveau-là, c'est plutôt des niveaux où il faudrait revenir se positionner dessus, à mon sens, tant que le marché obligataire tienne dans le monde, on va dire ça comme ça. Mais à ce niveau-là, ça me paraît relativement intéressant de revenir dessus. Et puis alors, Beazley en Angleterre, hein, que vous voyez quand même le chart. Donc au mois de juin, Zurich avait fait une offre autour de ce prix-là, à peu près. Et puis du coup, comme le titre est en baisse depuis un moment, bah, ils se sont dit, on va essayer de grappiller quelque chose. Ça n'a pas vraiment plu à Beazley. Donc voilà, on est plus ou moins sur le prix offert de la Zurich. Mais voilà, ça pourrait monter potentiellement jusqu'à 1400 pence si ça s'excite un petit peu autour de cette histoire. Mais néanmoins, si tout le monde se retire, ça risque de faire un retour assez violent à la baisse ces prochains jours. Voilà. Le secteur de l'agroalimentaire fait donc face à une crise majeure après le signalement du décès de deux nourrissons en France, à Pessac et à Angers. Bien que le lien de causalité ne soit pas encore juridiquement établi, l'alerte sanitaire est maximale pour les trois leaders du marché. Le déclencheur, c'est deux enquêtes judiciaires en cours. Un des cas concerne le lait de Guigoz, du groupe Nestlé. Le ministère de la Santé précise à ce stade que les analyses n'ont pas encore confirmé que le lait était la cause directe du décès, mais la procédure de rappel est donc globale. L'enquête remonte la chaîne d'approvisionnement. Le ministère de l'Agriculture a identifié un coupable potentiel, une huile ARA, c'est de l'acide arachidonique, fourni par un prestataire chinois, ce qui a déclenché des rappels massifs en France et à l'international pour suspicion de présence de céréulides, toxines provoquant des vomissements et des nausées pour Nestlé, pour Lactalis et pour Danone. Et des rappels préventifs, bien sûr, sur des lots spécifiques, notamment sur le marché singapourien, pour se conformer aux dernières recommandations, mais c'était seulement chez Danone dans ce cas-là. Si on analyse l'impact sur le business des deux géants, Danone et Nestlé, on a tout d'abord la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Il y a un audit qui sera nécessaire pour pouvoir continuer à se fournir chez le partenaire chinois. Et en attendant, on fait quoi ? C'est la grosse question. Et puis, il y a le risque de poursuite pénale, bien sûr, en cas de lien de causalité avéré, homicide involontaire. Et pour terminer, le plus grand risque, la dégradation de la valeur de la marque sur le segment ultra sensible de la nutrition infantile. Pour des groupes comme Nestlé ou Danone, la nutrition infantile, c'est une vache à lait à haute marge, mais c'est aussi leur talon d'Achille en matière d'image. L'identification rapide du fournisseur tiers, le prestataire chinois, pourrait limiter la responsabilité directe des groupes s'ils prouvent une faille chez le partenaire. Cependant, le marché n'aime pas l'incertitude. Tant que les parquets de Bordeaux et d'Angers n'auront pas rendu leurs conclusions, une prime de risque va peser sur les titres du secteur. Et vu la claque que Danone a pris, si les choses se calment, elle est vraiment pas chère et paye un généreux dividende pour l'investisseur long terme. Voilà le graphique de Nestlé, ça se passe de commentaires. On est revenu quasiment au plus bas, dans la zone des 71, donc là, à ces niveaux-là, il faut que ça tienne, hein, parce que sinon, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, et ça peut aller très très bas, très très vite, si on venait à casser les 70 francs suisses, à mon sens. On passe au en vrac de la semaine. Le chiffre d'affaires du sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Polypeptide a profité l'an dernier de l'essor des thérapies métaboliques. Chez Belimo, on notera que l'éclosion des centres de données, donc des data centers portés par l'usage de l'intelligence artificielle, a soutenu les ventes du spécialiste de ventilation en 2025. AMS Osram a racheté pour 199,9 millions d'euros de ses propres obligations convertibles arrivant à échéance en 2027. Doc Morris a publié des ventes en hausse de 9,3% et confirme ses objectifs, mais le titre plongeait parce que les pertes, le cash flow négatif et les risques restent très élevés. En gros, ça vend plus, mais ça brûle encore trop de cash et pour rassurer le marché. Et en plus, il y a un gros concurrent qui va se pointer sur le marché. L'énergéticien bernois BKW a livré un profit warning sur ses résultats pour la période, minée par un important correctif de valeur sur une centrale à charbon. L'association Foodwatch a annoncé qu'elle avait porté plainte contre X pour le rappel des laits infantiles Nestlé et Lactalis. Barry Calbo a été bien recherché cette semaine. Le chocolatier a vu son chiffre d'affaires gonfler au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, dépassant les attentes des analystes, et le groupe souffre en revanche toujours d'une demande un peu plus faible. Galenica a franchi le seuil des 4 milliards de francs suisses de recettes l'an dernier, notamment grâce à l'intégration du spécialiste de diagnostic Labortim, laissant en outre augurer un excédent d'exploitation en hausse de 10 à 12%. Arista a annoncé avoir rempli tous ses objectifs pour le dernier exercice. Le boulanger industriel prévoit une poursuite de la croissance cette année et investira 40 millions d'euros dans un nouveau site de production au Portugal. Le spécialiste de la connectique Oberon Sooner a quant à lui plongé brutalement cette semaine, juste après avoir publié ses chiffres clés pour 2025. Les entrées de commandes ont grimpé de 13,7% pour atteindre 1 milliard de francs suisses, tandis que le chiffre d'affaires net est resté organiquement au niveau de celui de l'année précédente. Schlatter a pâti l'année dernière d'une demande souffreteuse et vu ses ventes s'effriter. Et Gourit et SFS se sont tous deux fait remarquer après des résultats provisoires, mais déjà plutôt probants. Voilà. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses à dire, mais en fait, il n'y a qu'une seule chose au centre des préoccupations des investisseurs, c'est la prochaine déclaration de Donald Trump. Et ça va continuer cette semaine encore, et la semaine d'après probablement. Le seul truc qui pourra peut-être nous attirer ailleurs la semaine prochaine, c'est la réunion de la Fed. C'est pas que ça va changer grand-chose, mais ça va nous occuper, on va en causer, on va pouvoir attendre sur le sujet jusqu'à mercredi soir, ensuite on va s'exciter 3 minutes, et on passera à autre chose. Et au chapitre autre chose, eh ben, il y aura du monde puisqu'on aura quand même une avalanche de chiffres trimestriels cette semaine. Comme vous le voyez, entre autres, Microsoft, Tesla, Meta, Apple et plein d'autres noms comme Boeing, ASML, UPS, Roche, Sanofi et LVMH. Nous allons donc revivre une nouvelle semaine sous le signe de Donald Trump qui est en train de se chauffer avec l'Iran et on attend sa prochaine cible avec impatience parce qu'après tout, il n'y a que ça qui compte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull live. Bonne fin de dimanche. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.